1994. Élisabeth. Aimer est une aventure sans carte et sans compas, où seule la prudence égare. Romain Gary. Zéro. Le bourdonnement lointain d'un poste de radio ou d'une télévision. Un rideau de mélasse. Un brouillard épais, noirâtre. Une sensation désagréable, mais désormais familière. Celle d'avoir les paupières boursouflées, comme lestées par des kilos de plomb. Cette difficulté à respirer et cette fatigue accablante proche de l'anéantissement. J'ouvre les yeux. Je suis allongé sur un sol en bois. Des lattes de parquet qui sentent encore la cire. Il fait sombre. Il fait chaud. Comme si on avait laissé les radiateurs tourner à puissance maximale pendant plusieurs heures. Je me mets debout avec appréhension. Le craquement de mes articulations me donne l'impression que mes os vont céder. Je frotte mes paupières, jette un regard circulaire autour de moi. Je suis dans un appartement plongé dans la pénombre, un loft en désordre, qui ressemble à un atelier d'artiste. Il y a des chevalets, des toiles abstraites, des bombes et des pots de peinture partout sur le sol. Un reste de pizza sur une table basse en parpaing. 1. Sur une étagère, un radio-réveil digital indiquait 3h du matin. Je m'approchais de la verrière qui s'étirait sur toute la longueur du mur. Au vu de la hauteur, l'appartement devait se trouver au 3e ou au 4e étage. La rue était bien éclairée. L'architecture du quartier privilégiait les immeubles en briques d'avant-guerre et les élégants cast iron buildings avec leurs escaliers extérieurs et leurs arcades ouvragées. En plissant les yeux, je distinguais plusieurs galeries d'art donnant directement sur la rue. L'une d'elles portait une enseigne lumineuse. 18 Mercer Street. Je me trouvais à Soho. Dans la pièce à vivre de l'atelier, une télévision branchée sur CNN déversait son flot d'informations continues. Je repérais une télécommande au creux du canapé. Après avoir vérifié d'un coup d'œil circulaire que la pièce était vide, je m'en emparais pour augmenter le volume et me rapprocher de l'écran. Barré d'un bandeau rouge, Breaking News. On y voyait Nelson Mandela, tout juste élu président de la République d'Afrique du Sud, en train de prêter serment devant une foule immense réunie à Pretoria.
Le temps est venu de panser nos blessures. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche.
La date était visible en bas de l'écran. Le 10 mai 1994, mon dernier souvenir remontant à septembre 1993, j'avais donc fait cette fois un saut dans le temps d'à peine 8 mois. Alors que j'éteignais le téléviseur, un bruit régulier me fit tourner la tête. En tendant l'oreille, je perçus comme un léger clapotis doublé du bruit continu d'un filet d'eau. J'avançais dans un couloir sombre qui devait desservir la chambre et la salle de bain. Clouée sur la première porte, une plaque en émail ancienne annonçait la couleur. Bath. Je poussai la porte entrebâillée pour y découvrir. 2. L'horreur. Une lumière chaude et tremblotante enveloppait la pièce. Celle d'une vingtaine de bougies de toutes les tailles, disposées un peu partout dans la salle de bain. Sur le carrelage noir et blanc, des gouttes de sang sombre balisaient le chemin jusqu'à une baignoire rétro posée sur des pieds cuivrés en forme de patte d'aigle. Les jambes tremblantes. Je m'approchais de la cuve en train de déborder. Le corps nu d'une jeune femme baignait dans l'eau rougeâtre. Inerte, les yeux clos, la tête posée sur le rebord en fonte. Elle avait les deux poignets tailladés, de l'eau jusqu'aux narines, les cheveux recouvrant son visage. Elle était en train de se noyer.
Et merde !
Rassemblant mes maigres forces, je la tirai hors de l'eau, l'allongeai sur le sol et l'épongeai avec des serviettes. Mes doigts sur sa carotide pour lui prendre son pouls, je sentis un battement très faible, un pouls filant qui traduisait une perte de sang importante. Calme-toi, Arthur. Mon cœur cognait dans ma poitrine, un cœur pour deux corps. Agenouillé à ses côtés, je tentai rapidement d'évaluer son état de conscience, pratiquant les gestes familiers que je faisais tous les jours aux urgences. Je lui parlais, mais n'obtenais aucune réponse compréhensible. Elle réagissait de manière orientée à la douleur, mais j'avais beau la stimuler, elle n'ouvrait pas les yeux. Score de Glasgow, 8 ou 9, ce qui signait une altération de la conscience déjà importante.
Réfléchis.
Je regardais autour de moi. Sur le sol, une bouteille de Jim Beam et une autre de Four Roses. Près de la poubelle, je ramassais deux boîtes en plastique de médicaments. Je plissais les yeux pour déchiffrer les étiquettes. Du Lunesta, un somnifère hypnotique, et du Lorazepam, un benzodiazépine anxiolytique.
Nom de Dieu.
Les flacons étaient vides, signe que les doses absorbées devaient être très importantes. La fille n'avait pas fait semblant. Mélangée à de grosses quantités de bourbon, les effets de ce type de substance étaient dévastateurs. Je mis les deux bras de la jeune femme en position surélevée pour limiter l'afflux sanguin. Sa respiration était très lente, sa tension basse, ses pupilles dilatées, ses extrémités cyanosées. Je pris quelques secondes pour faire le point. Hémorragie, somnifère, anxiolytique, alcool. Un cocktail ravageur qui rendait son état très précaire. Elle était au bord de la dépression respiratoire sévère et de l'arrêt cardiaque. Je me relevais, fonçais dans le salon à la recherche d'un téléphone. Je composais le 911 pour appeler une ambulance. Dans un placard de la cuisine, je trouvais deux torchons propres et deux foulards dans le dressing que j'utilisais pour effectuer des points de compression au poignet de la jeune femme. C'est après avoir noué les pièces d'étoffe que je dégageais son visage et m'y attardais pour la première fois. C'était Elizabeth Ames. Les ambulanciers s'affairaient autour du corps de Lisa, suivant la procédure classique de prise en charge d'une tentative de suicide de cette nature. Mise en place d'une voie veineuse au pli de chaque coude, intubation avec ventilation assistée, paramétrage du scope, ECG, injection de flumazénil. Je pouvais anticiper tous leurs gestes, deviner toutes leurs décisions. Je brûlais d'envie de les aider, mais je n'en avais aucune légitimité. Et puis, ces gars connaissaient aussi bien leur boulot que moi. Dans la chambre à coucher, je trouvais une robe, des escarpins et une fine pochette en faux cuir qui contenait les papiers d'identité d'Elizabeth, une clé d'appartement, deux billets de $20 et une carte de paiement. Je m'emparai de la clé et de l'argent liquide et remis le sac à l'un des secouristes pour que l'hôpital soit en mesure de connaître son nom.
« Il faut qu'on se grouille !» cria celui-ci. « L'hémorragie est sévère !»
Ils sortirent le corps de Lisa sur une civière. Je les accompagnai jusque dans la rue.
« Vous l'emmenez où ?»«
Bellevue Hospital !»
me répondit l'infirmier en claquant la porte du véhicule médicalisé. Je regardais s'éloigner l'ambulance en compagnie d'une voisine de palier, une vieille dame qui était sortie de chez elle en entendant le brouhaha dans le couloir.
« À qui appartient cet appartement ?»
demandai-je, même si je devinais déjà la réponse.
« Il était loué par le peintre David Fawkes, mais il est mort d'une overdose il y a quelques jours. Oh, la pauvre petite !»
En fouillant dans mes poches, je trouvai une dernière cigarette mentholée et le briquet « I love New York ».
« Lisa, vous la connaissez bien ?» dis-je en allumant la cigarette.
« On se croisait souvent. Faut dire qu'elle était toujours fourrée chez ce type. Oh, elle était si gentille, chaque fois un mot aimable. Si vous voulez mon avis, il ne méritait pas qu'on veuille mourir pour lui. »
La vieille dame s'éloigna en continuant à parler toute seule.
« Pauvre gamine, si c'est pas malheureux de vouloir partir à son âge. »
Je hélai le premier taxi qui passait dans la rue. Alors que la voiture s'arrêtait à mon niveau, j'observais la vieille qui resserrait sa robe de chambre en frissonnant.
« Moi, je donnerais n'importe quoi pour quelques années supplémentaires. »
4. 5h du matin. Dès que je poussai la porte de l'appartement de Lisa, Remington, le chat tigré, m'accueillit tel un sauveur. À peine avais-je mis un pied dans le couloir qu'il se frottait déjà contre ma jambe, poussant des miaulements désespérés. « Comment ça va, toi ? » dis-je en lui gratouillant le haut du crâne. Dans un placard de la cuisine, je trouvai un sachet de croquettes. Je lui en servis un grand bol, en même temps qu'une soucoupe d'eau fraîche. J'avais très envie de café, mais la boîte métallique était vide et la seule bouteille de lait qui restait dans le frigo était périmée. Sur le comptoir se trouvaient de vieux journaux, des numéros d'USA Today des jours précédents. J'avais autre chose à faire, mais je ne résistais pas à la curiosité. Les dernières semaines avaient été meurtrières. Le 5 avril, suicide de Kurt Cobain. Le 1er mai, accident mortel d'Ayrton Senna. Sur la table du bar, un numéro de Newsweek, avec en couverture une photo en noir et blanc du chanteur de Nirvana, barré d'un titre en forme d'interrogation. Suicide. Why do people kill themselves? Je reposai le magazine et me mis en quête de ce que j'étais venu chercher. Une réponse à la question « Où était Sullivan ?» Je parcourus le deux pièces en espérant trouver un indice. Que s'était-il passé 8 mois plus tôt, lorsqu'Elizabeth avait réussi à faire évader mon grand-père? Où l'avait-elle conduit? Était-il resté en contact? J'en doutais fortement. Sullivan n'avait pas d'argent, pas d'endroit où dormir, pas de papier d'identité et, à ma connaissance, pas d'amis vers qui se tourner.
Objectivement, il y avait toutes les chances pour qu'il soit de nouveau interné à Blackwell. Peut-être même avait-il trouvé la mort. Je chassais cette pensée de ma tête, préférant m'accrocher à la dernière image que j'avais de lui, celle d'un homme à l'œil roublard et à l'esprit assez vif pour élaborer un plan d'évasion performant afin de retrouver la liberté. Je passais d'une pièce à l'autre. Pas la moindre trace de mon grand-père dans l'appartement. J'allais partir lorsque Remington se faufila entre mes jambes pour rejoindre la chambre de sa maîtresse. Cherchant à l'éviter, je ne réussis qu'à me prendre les pieds dans le tapis et à m'étaler sur le parquet. Quelle andouille! Pour me remettre debout, je pris appui sur la commode, et c'est à ce moment-là que je l'aperçus. Un camé suspendu au bout d'une chaîne en argent, elle-même accrochée au cône métallique d'une vieille lampe de bureau à bras télescopique. Ce bijou n'était pas là, la dernière fois que j'étais venu. Je pris le médaillon dans ma main, observant avec fascination ces délicates sculptures en relief qui représentaient le visage d'une jeune femme aux traits fins, dont le profil nacré se découpait sur un fond bleu en agate. Je retournai le pendentif. Une inscription y était gravée en lettres déliées. « Pour Yvonne, souviens-toi que l'on a deux vies. Connor, 12 janvier 1901. » Mon cœur s'emballa. Connor et Yvonne étaient les prénoms de mes arrière-grands-parents. Comment Elisabeth avait-elle pu se procurer ce bijou? La réponse claqua comme une évidence. Parce que Sullivan le lui avait offert. Surexcité, j'ouvris tous les tiroirs, toutes les armoires, tous les placards. Je savais à présent ce que je recherchais, le sac à main d'Elisabeth. Dans le loft du peintre, je n'avais récupéré qu'une pochette que l'on porte lors d'une soirée. Pas le bon gros sac dans lequel certaines femmes trimballent quotidiennement la moitié de leur appartement. Bientôt, je dénichai un fourre-tout en cuir grainé qui contenait un poudrier, une trousse de maquillage, un trousseau de clés, une brosse, une paire de lunettes, une boîte de chewing-gum, un stylo bille, des comprimés d'aspirine, un agenda et un répertoire téléphonique. Je le parcourus le cœur battant. Il n'y avait rien à la lettre C, mais à la lettre S, le prénom Sullivan était calligraphié, suivi d'un numéro commençant par le préfixe 212, indiquant un endroit à New York. Avec le stylo, je recopiais le numéro sur mon avant-bras et je filais dans la cuisine, décrochais le combiné du téléphone mural et composais la série de chiffres. Tonalité, puis une dizaine de sonneries qui restèrent sans réponse et qui ne me permirent même pas de laisser un message sur un répondeur. Merde. Dans le silence de la fin de nuit, je regardais fixement les cristaux digitaux verdâtres du micro-ondes qui indiquaient 5h34. Soudain, la sonnerie du téléphone me fit sursauter. « Allô ? » fis-je en décrochant.
« C'est pratique, cette fonction de rappel automatique.
Bordel, c'est vous, Sullivan ?
Tu es déjà revenu, petit gars ? C'est une sacrée bonne nouvelle, ça. Je n'attendais pas ton retour avant cet été. Où êtes-vous, bon sang ? Mais où veux-tu que je sois ? Chez moi, pardi.
5. Le taxi me déposa à l'adresse que m'avait indiqué mon grand-père. Une ruelle pavée située derrière Washington Square. Vissée sur le portail qui protégeait l'entrée de l'impasse, une plaque en cuivre indiquait que MacDougall Alley abritait autrefois les écuries et les dépendances des villas bourgeoises qui bordaient le parc. Le jour se levait. Une discrète nappe de brouillard planait sur les pavés. Des rubans vaporeux s'enroulaient autour du pied des vieux réverbères. Je poussai le portillon et m'avançai jusqu'à une petite maison à deux étages, à la façade ocre et rouille. Je frappai à la porte en actionnant un heurtoir en laiton orné d'une gueule de lion rugissant.
« Salut, fiston !»
m'accueillit Sullivan en passant la tête dans l'entrebâillement. Alors qu'il ouvrait la porte plus franchement, je l'examinais de haut en bas. Son apparence physique s'était modifiée de façon spectaculaire. Il arborait une coupe propre et travaillée, cheveux dégagés sur les côtés, plus longs et harmonieusement balayés sur le haut du crâne. Sa barbe était courte et bien taillée. Malgré l'heure matinale, il portait un pull à col roulé et un élégant veston en velours côtelé. J'étais médusé. Le vieillard léthargique du Blackwell Hospital avait laissé place à un gentleman farmer qui paraissait 10 ans de moins que son âge.
« Mais tu as du sang partout !»
s'inquiéta-t-il. « Rassurez-vous, ce n'est pas le mien. »
« Allez, entre vite, on gèle les fesses !»
Hésitant, je me laissai conduire jusqu'à un salon chaleureux et cossu qui ressemblait à l'intérieur d'un pub anglais avec son parquet couleur miel, son canapé Chesterfield et sa table de billard. Au fond de la pièce, un grand miroir surplombait un bar en acajou où étaient alignés des verres en cristal épais et une dizaine de bouteilles de whisky de variétés différentes. Sur tout un pan de mur se déployait une bibliothèque garnie de livres à la reliure de cuir et un buffet en bois marqueté d'ivoire sur lequel était posé un antique électrophone et de vieux 33 tours de jazz. Je reconnus les mêmes musiciens que j'aimais moi aussi. Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis, Frank Morgan.
« Rapproche-toi de la cheminée !»
m'invita Sullivan en se frottant les mains devant l'âtre dans lequel crépitait un feu clair et vif.
« À quelle heure as-tu repris connaissance aujourd'hui ?»«
3 heures du matin. »«
C'était où cette fois-ci ?»«
Dans un loft, à Soho. »
En quelques phrases, je lui racontai la tentative de suicide de Lisa et comment j'avais essayé de la sauver. Il parut profondément affecté par cet épisode. Pendant quelques secondes, son visage s'affaissa, son regard erra dans le vague, puis il chercha du réconfort en tirant de sa poche son paquet de Lucky Strike, la même marque que Frank avait fumée toute sa vie et qui ne devait pas être pour rien dans sa mort précoce. Il me proposa une cigarette et s'en alluma une.
« Je suis certain qu'elle va s'en sortir !»
affirma-t-il en s'installant dans un fauteuil club en cuir fauve.
« Tu veux prendre une douche ?»«
Attendez, Sullivan, on est où, là ?»«
Je te l'ai dit, chez moi !»
J'ai du mal à le croire. Je ne vois pas très bien comment vous auriez pu acheter ou louer un appartement. Vous êtes un patient évadé d'un hôpital psychiatrique, ce qui signifie que vous n'avez pas d'argent, pas de compte en banque, pas de papier d'identité.
Et pourtant, on est bien chez moi,
rétorqua-t-il d'un œil malicieux.
J'ai acheté cet appartement en 1954. C'était ma garçonnière, mon jardin secret. Un endroit où j'aimais me rendre en dehors de mon travail, pour écouter de la musique, me reposer, boire un verre.
Y recevoir mes maîtresses sans que ma femme soit au courant, complétai-je. Je distinguais son sourire à travers la fumée de cigarette.
Oui, aussi, je te l'accorde. Bref, pour garder cet endroit confidentiel, je l'ai financé à travers un système complexe de prête-nom et de reconnaissance de dette à long terme. En clair, c'est moi qui ai avancé les fonds, mais c'est mon associé de l'époque, Ray Macmillan, qui est officiellement propriétaire du bien immobilier.
Et qui vous l'a restitué après votre évasion de l'hôpital l'année dernière.
« Tu piges vite, petit gars !»
Je comprenais mieux à présent. Au milieu des années 1950, lorsque Sullivan avait été déclaré mort, on avait procédé à la liquidation de son héritage, mais l'appartement new-yorkais ne faisant pas partie de son patrimoine, il était passé entre les mailles du filet. « Et concrètement, comment subvenez-vous à vos besoins ?» Anticipant ma question, il s'était levé de son fauteuil. Devant la bibliothèque, tel un prestidigitateur, il fit pivoter un panneau en bois pour mettre au jour un coffre-fort. Il fit jouer les molettes pour ouvrir l'armoire d'acier. Elle contenait 3 lingots d'or de taille moyenne qui brillaient de 1000 feux.
« De tous les conseils que je pourrais te donner, voici le plus précieux, petit gars. Quoi qu'il arrive, conserve toujours une poire pour la soif. En prévision des sales coups que la vie ne manquera pas de t'infliger. »
Mes yeux étaient irrésistiblement attirés par les 3 briquettes dorées. Je finis par demander « Mais d'où vient tout cet or ?» De nouveau, le regard de mon grand-père pétilla.
Au début des années 1950, pour des raisons fiscales, un de mes plus gros clients avait pris l'habitude de me régler sous forme de lingots qu'il avait hérité de sa mère. J'en ai ainsi gagné 4 que j'ai entreposés ici. J'en ai revendu un l'année dernière. C'est fou ce que le coût de la vie a augmenté, hein ?
Je ne pris pas la peine de répondre à sa question. Donc, vous vivez ici depuis 8 mois ?
Affirmatif.
« Et comment occupez-vous vos journées ?» Il écrasa son mégot dans un cendrier en verre moulé.
« Mais en t'attendant, gamin ?»«
Comment ça, en m'attendant ?» Il me fixa sans ciller et énonça d'une voix grave.
« Je sais que tu te demandes ce qui est en train de t'arriver. Et je sais que tu es terrifié. Alors voilà, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La vérité est bien pire que tout ce que tu as pu imaginer. »
Je le défiais du regard. Et c'est quoi, cette vérité ?
C'est une histoire complexe et difficile à accepter. Je vais te la raconter, bien sûr. Mais d'abord, monte prendre une douche et enfile de nouveaux habits.
Et où vais-je trouver d'autres vêtements ?
À l'étage, il y a 2 chambres. La première, c'est la mienne. La seconde, considère que c'est la tienne. Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans la penderie. Comme je n'étais pas sûr pour les tailles, j'ai tout acheté en double.
Devant mon étonnement, il ajouta d'un ton satisfait...
« Je te l'ai dit, ça fait des mois que je t'attends, gamin. »